Alors, Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. C'est qui m'a dit ça? C'est pas toi ou Benoît qui m'ont dit ce matin? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, jeter son pain à la surface des eaux? Je sais pas si vous avez déjà pêché en rivière. Vous avez déjà fait de la pêche en rivière ou sur un cours d'eau où il y avait du courant? Mais comment, moi, pourrais-je retrouver mon pain en le jetant à la surface d'une rivière? Je suis là, je jette mon pain et je le vois partir. Ce que dit la parole de Dieu là me montre un principe qui est contraire à tout principe humain, physique. Comment, moi, je vais pouvoir récupérer mon pain? Parce que je sais qu'en plus que dans la rivière, il y a des petits poissons qui vont manger le pain. Et en plus, il y a sans doute des petits oiseaux qui voient le pain à la surface de l'eau, qui vont plonger et récupérer le pain. Il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça d'une manière physique, mais aussi d'une manière spirituelle. Parce que ici, vous avez un principe divin. Un principe qui est là, qui est dans le cœur de Dieu. Nous récupérons toujours ce que nous donnons. Je répète, je récupère, je ne fais pas la proclamation d'un évangile de la prospérité, hein, loin de là, mais tout ce que tu donnes, tu le récupères. En son temps, Dieu te permettra de le retrouver. Donc, si vous avez subi, si vous avez cédé à la tentation de répondre aux mails piratés cette semaine, vous le retrouverez. Mais je voudrais réfléchir avec vous sur ce principe. D'abord, moi, quand je vais à la pêche, alors je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a expliqué une fois qu'au paradis, il aurait une maison avec une petite rivière en bas. J'imagine cette personne, d'accord ? Grand pêcheur, avec le bon accent, devant l'Éternel. Que vas-tu faire pour jeter ton pain dans la rivière ? Est-ce que tu vas cuire ton pain, malaxer la farine? J'ai déjà fait du pain dans ma cheminée. Je vous assure, j'ai mis le feu. Un feu de cheminée en faisant du pain. J'ai arrêté, c'est pas mon truc. Je suis pas fait pour être boulanger. Mais tu malaxes ton pain, puis bon, c'est pas évident. Hein. Tu le laisses fermenter, parce que c'est quand même plus sympa quand il fermente naturellement. Et puis derrière, que fais-tu? Tu le cuis, tu le poses sur la table, tu le laisses refroidir, tu le coupes. Mais si tu veux le jeter, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux aller jeter le pain dans la rivière, tu es bien obligé de sortir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une notion là qui est vraiment importante. Si tu veux un jour récupérer le pain que tu jettes, il faut d'abord le jeter. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour le jeter, tu es obligé de sortir. Tu es obligé d'aller vers l'extérieur. Tu es obligé de penser aux autres plutôt que de penser à toi. Vous êtes d'accord avec ça? Or, dans notre pensée babylonienne, dans notre pensée du monde, dans notre pensée d'homme et de femme terrestre, on se dit, et on se dit tout le temps, il vaut mieux commencer par ma propre maison. C'est pourquoi nous avons tous des petits livrets d'épargne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, hein, j'entends bien. Ou on a une réserve de courses à la maison. Moi, déjà, parce qu'ils annoncent des grèves chez les pétroliers à la fin de la semaine prochaine. Vous êtes au courant de ça, non? Je vous l'annonce. Je ne suis pas syndicaliste, hein, mais j'ai eu une lettre, j'ai été mis au courant par mon patron. Et déjà, je suis en train de penser à la manière dont je vais faire mon plein. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà, écoutez bien ceci, je me suis dit, je suis en congé, quand je reviens, je fais le plein, et je vais limiter mes déplacements pour éviter d'avoir un maximum d'essence, ou de gasoil, qui est consommé. Vous comprenez? Dans ma mentalité, je suis comme ça. Je ne suis pas autrement que vous. Et je me suis dit, je vais donc économiser mes déplacements. Je ne vais pas donner pour garder, pour être sûr que j'ai encore de l'essence dans mon réservoir. Mais je peux vous dire que spirituellement, nous sommes comme ça. On pense d'abord à nous. On pense à notre salut. C'est bien de travailler à notre salut. L'apôtre Paul nous y invite. Mais on néglige souvent les autres. Vous comprenez? Et cette dimension-là, quand on rentre pleinement dans le soi d'abord et les autres ensuite, on va pas beaucoup jeter. En tout cas, si on jette depuis la fenêtre, je sais que le terrain sur lequel notre frère aura sa demeure au paradis sera grand. Donc, il lui faudra soit une fronde pour jeter à la surface des eaux depuis sa maison, ou je suis désolé, il sera obligé de sortir. C'est vrai. Encore faut-il qu'une femme serve uniquement à jeter le pain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça, c'est dans la mentalité. Je ne dis pas dans votre mentalité. Je ne dis pas dans ma mentalité. Je dis dans la mentalité des chrétiens occidentaux, dans la majeure partie des cœurs des enfants de Dieu. C'est moi d'abord, les autres ensuite. Moi d'abord, les autres ensuite. Moi d'abord, les autres ensuite. Non ? Regardez un petit peu. Ici, on a pris la décision qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à déménager, parce que ça coûte très cher. C'est vrai, de louer ici, ça coûte cher. Et on se dit, avec quoi va-t-on payer ? Et ça permettra de faire ceci, ça permettra de faire cela. J'étais, il y a environ 3 ans, à Eastbourne, en Angleterre, lors d'un séminaire Hellel. Et on est allé dans cette église et on a eu la chance de visiter cette église à Eastbourne. Très belle église, très gros budget, ils ont beaucoup d'argent. Mais un jour, elle nous a expliqué, la dame qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient avec moi, elle nous a expliqué quelque chose qui m'a beaucoup touché. À un moment donné, ils avaient beaucoup d'argent pour acheter ou transformer le bâtiment. Il y avait une grosse rentrée d'argent. Et vous savez ce que le Seigneur a demandé au pasteur principal de cette église? Tu donnes, je ne sais plus, une grande partie de l'argent devait partir dans les missions. Une grande partie. Le pasteur, il a une lutte en lui. Il a dit, ouais, mais comment je fais ça? Comment je vais satisfaire mon moi d'abord? Vous comprenez ça? Et le Seigneur dit, tu donnes. Il a obéi. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc. La bénédiction vient par l'obéissance. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, que fait-il? Il bâtit sa maison sur le roc. Je pense à la parole de Dieu, à la Bible, et je pense aussi à la parole prophétique. C'est-à-dire, quand tu entends la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu bâtis quelque chose de solide dans ta vie. Je ne cherche pas à mettre l'anathème sur ceux qui ont un compte en banque bien rempli ou ceux qui pensent à eux. Je ne dis pas ça. Je dis que la pensée biblique peut être et certainement contraire à ma pensée et à ma manière d'être et à ma manière de faire. Je voudrais maintenant revenir à ce que Jésus a dit et a fait. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, il est écrit quoi? Qu'il s'est dépouillé lui-même en se donnant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné. Vous comprenez? Ça a été d'abord l'autre, d'abord avant le moi. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il s'est dénudé. C'est-à-dire que Jésus était dans son ciel de gloire. Il régnait. Il était sur son trône. Et il a dit quelque chose qui est tellement contraire à ma pensée, contraire à la vôtre, contraire à ma manière de faire et contraire à la vôtre. Qu'a-t-il fait? Il s'est dépouillé. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait homme. Et il est dit qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie parce que il a dit on ne pouvait pas recevoir le pardon de Dieu. On ne peut pas recevoir le pardon par nos propres moyens. Donc il a dit, moi, Père, je vais donner ma vie. Et s'ils croient que j'ai donné ma vie pour eux, alors ils auront la vie éternelle. Vous voyez que derrière, dans le reste du texte de Philippiens, il est écrit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Or, nous, nous croyons qu'en gardant notre pain, nous croyons qu'en gardant de ce que nous possédons, de notre temps, de notre investissement, je vais penser d'abord à mon jardin avant de penser à ceux qui souffrent. Je vais d'abord penser à mon job. Ce qui est important, c'est mon travail, que je m'épanouisse dans mon travail. Et j'entends bien, c'est important d'être heureux dans son job. Avant le royaume de Dieu, ben c'est une grave erreur. Parce qu'en réalité, plus tu t'habilles, plus tu t'appauvris. Plus tu cherches à avoir, plus tu t'appauvris pour le royaume. Mais plus tu cherches à donner de ton temps, de tes prières, de ta vie, du don de toi, de ton argent, plus tu t'enrichiras. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que sur la terre, sous la terre, dans le ciel, partout, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Là, il y a un principe du royaume que vous devez recevoir. C'est que quand tu te dépouilles, c'est alors que les autorités commencent à reconnaître ton autorité et ta supériorité dans le royaume. Comprenez ça ? Plus tu vas te dépouiller, plus ton autorité sera reconnue. Plus tu donnes pour les autres, plus tu seras un homme ou une femme qui sait donner sa vie pour les autres, plus dans le monde spirituel, on reconnaîtra qui tu es. C'est puissant ce que je suis en train de vous dire. Pas parce que ça vient de ma bouche, mais parce que c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose qui doit changer dans notre mentalité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Est-ce que je suis clair ? Est-ce que je n'ai pas eu le temps de beaucoup préparer ce message ? Mais c'est vraiment important. Important. Pourquoi beaucoup de couples aujourd'hui ne fonctionnent pas ? Pourquoi on retrouve des tensions au niveau du travail ? Parce qu'au-dessus de nous, ou au milieu de nous, ou dans le couple et dans les familles, il y en a toujours un qui veut penser à soi et être nourri par soi, pour lui. Vous comprenez ça ? L'égocentrisme, l'égoïsme, ça existe dans les couples. Je ne sais pas si déjà vous avez remarqué, mais moi, en tout cas, en tant que pasteur, j'ai déjà eu à gérer des problèmes de couple de chrétiens et de non-chrétiens. D'ailleurs, parfois, Dieu merci, ça se passe plus souvent chez les non-chrétiens, bien qu'il y en a chez les chrétiens. D'accord ? Et souvent, j'ai remarqué ceci. Souvent, les problèmes issus qui arrivent dans les couples sont des problèmes où moi d'abord. Et vous n'êtes jamais disputé avec votre épouse ou votre époux ? Imaginez une dispute. Je sais que ça n'arrive jamais, il n'y a que chez moi qu'on se dispute. Imaginez une dispute. Je sens, il y a des personnes en train de rougir, il y en a qui font leur femme, t'as vu ? Chez eux aussi, ça arrive. Quand vous disputez, moi, ça m'est déjà arrivé de me disputer d'une manière sévère. Hein. On était nez contre nez, là. C'est « j'ai raison, c'est moi. Tu n'as pas satisfait un besoin ou tu n'as pas fait ce que je voulais. Et il faut, il faut, il faut. » Une fois, j'étais prié comme ça, persuadé que j'avais raison. Et j'avais raison. Non, non. Je plaisante. Ceux qui me connaissent à Moucron, dites le mien. Je plaisante, je provoque. Mais... Et vous savez, un jour, je suis monté dans ma chambre. Je pleurais parce qu'on s'était fait mal. Et j'ai dit au Seigneur, « Oh Seigneur, tu ne crois pas que le cœur de Marie quand même est dur et qu'elle devrait changer ?» Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu ? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a répondu. Parce que ce n'est plus vous qui allez rougir, c'est moi. Il m'a dit, « Occupe-toi d'abord du tien, Bruno. » Arrête de penser à toi. Donne ta vie. Ne t'occupe pas de qui a tort et a raison. Parce que le problème, ça vient souvent du fait que je veux garder ce qui m'appartient, ce qui est à moi, ce que je veux, ce que je suis. Je veux garder de mon temps. Je veux surtout avoir un maximum de choses qui satisferont ma chair. Eh oui, mes frères, mes sœurs, nous devons nous dépouiller. Alors, je ne vous dis pas de tout acheter, ce qu'il y a là-bas, c'est pas vrai. J'aurais fait un bon commercial. Hein. Non, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas acheter, n'achetez pas, donner, ne donnez pas. Mais pensez un instant à la mentalité que nous avons, à ce que nous sommes en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que personne. Hier, je me suis dit, j'ai une semaine assez compliquée. Et je me suis dit à un moment donné, je vais raconter ça demain. J'ai reçu ça pendant Turning parce que je ne savais pas ce que je voulais raconter ce matin. Et vendredi soir, Turning, on s'est couché tard. Samedi matin, on s'est levé. Pourtant, j'aurais bien aimé rester au lit. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais donner de mon temps pour aller témoigner de toi dans les rues de Lille. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent. Parce que je sais qu'il y a des personnes, je veux donner. J'étais donné dans les rues de Lille, encore l'après-midi. J'ai donné de mes semelles. J'étais marché pour Jésus l'après-midi. Je suis rentré à 16h30, 17h, et j'ai dormi parce que j'étais crevé. Et après, j'ai préparé le message. Quand vous réfléchissez un petit peu, je n'ai rien fait chez moi. Je n'ai rien fait pour cette église. En réalité, hier, qu'ai-je fait ? J'ai été jeter mon pain à la surface des eaux. J'ai donné de mon temps, de mon énergie. J'ai libéré du pain, comme ça. Et je sais que je vais le récupérer ici. C'est ce que je viens de vous dire. Autrement dit, souvent nous avons une notion très locale du royaume. Mais en réalité, le royaume concerne le royaume. Pas un département du royaume, pas une ville du royaume. Le royaume concerne le royaume. Dans le royaume, il n'y a ni frontière de langue, ni frontière de pays. Le royaume est le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc quand tu vas donner du temps pour les autres, tu les récupères pour ta propre vie. Si tu vas évangéliser à Marseille, tu le récupères dans le nord de la France. C'est une loi. Un jour ou l'autre, tu récupères ce que tu donnes. Est-ce que vous avez entendu cela ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Dans ce principe divin. C'est pour ça que Dieu dit, tu prendras soin de l'indigent. C'est dans la loi. Hein ? Tu prendras soin de l'indigent. Tu prendras soin de celui qui a faim. Tu prendras soin de l'opprimé. Tu prendras soin de l'immigré. Il y a des lois précises sur l'immigré dans le royaume. Ne fermons pas notre cœur, mais soyons celles et ceux qui donnons, 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 donnons. Plus tu donnes, plus tu recevras. Un jour, il y a un homme riche, et je conclue avec ça, qui a dit ceci. J'arrive. Luc, chapitre 20, verset 16. L'homme riche, c'est pas moi. Parce que lui, c'était un homme qui avait des terres. Et ces terres avaient beaucoup rapporté. Vous connaissez cette parabole ? Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. » Donc, en train de dire, je vais investir, mais je vais investir pour moi. J'en bâtirai de plus grand, j'aurai de plus en plus, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ah, et je dirai à mon âme, et mon âme sera rassasiée, et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois. Réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et Jésus ajoute, « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui, écoutez bien ce que je vous dis, de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Betsalel, tu peux amasser des trésors pour toi-même. Tu peux te dire, pensons à nous, pensons à moi, pensons à notre petit confort. Vous savez, les problèmes que nous avons dans nos églises, vous savez d'où ils viennent ? J'ai entendu ça hier. J'ai trouvé ça, je l'ai noté sur mon smartphone. Un frère a dit hier matin, les problèmes que nous avons dans les églises viennent du fait que nous passons beaucoup de temps ensemble sans rien faire. C'est intéressant, hein, ce qu'il dit. Quand je fais du pain à la maison, enfin, quand je réussis à en faire, parce que visiblement, je ne suis pas bon boulanger, ce pain, il sert à quoi ? Bien sûr, il va nourrir ma famille. Bien sûr, on va mettre du Nutella dessus. Avec une... Non, pas bon le Nutella, allez. On mettra du maroilles, enfin, comme vous voulez. Vous choisissez entre le maroilles et le Nutella. J'ai décidé. Et il va nourrir ma famille, j'entends bien. Mais il va permettre à fortifier les uns et les autres. Pourquoi faire ? Pour aller jeter le pain à la surface des eaux. Entendez bien ceci. Il est hors de question que je lève un étendard, parce que il y a environ 2 semaines maintenant, on s'est réunis suite à ma prédication sur Néhémie le lendemain. Ici, on a prié, on était 10 personnes qui se sont mobilisées pour prier pour cette église. Et là, il y a une parole prophétique qui m'a été donnée. Et cette parole prophétique disait, « Bruno, je te vois sur un cheval avec un étendard. » Tu me dis, François, si je me trompe. « Et tu as un étendard sur lequel il est marqué un lion. » Qu'est-ce que fait le lion, en général ? Vous l'avez déjà vu faire dans la jungle, là ? Il chasse, il est dehors. D'accord ? Et il m'a dit, « Tu as un étendard et je te vois le rouler. » Et surtout, Dieu te dit, « Ne le roule pas, mais laisse-le dérouler. » Maintenant, je vais vous dire une chose. Il est hors de question que je prenne un étendard ici, que je le laisse ici devant vous, que je fasse ça, sans sortir. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire ? Je répète, il est hors de question que j'ai un étendard qui m'a été donné pour montrer, vous savez, l'étendard, en général, il montre où il faut avancer, d'accord ? Que je reste ici, parce que dans mon cœur, et vous savez ce que je suis en tant que berger, je donne ma vie, d'accord ? Je donne de mon temps. Je n'ai pas de temps pour moi, au tel point que j'oublie certains rendez-vous. Je donne ma vie pour les autres. Il est hors de question que nous fassions et que nous fabriquions une église repliée sur elle-même. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Mais je ne resterai pas le pasteur d'une église enfermée, d'une église qui ne pense qu'à elle. Je serai le pasteur d'une église qui fabriquera du pain, qui nourrira le peuple, mais pour que ce peuple prenne le pain et aille le jeter à la surface des eaux. Je veux que vous entendiez ça. Je veux que vous entendiez ça. Parce que là, c'est dans mes tripes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hier, j'ai rencontré un SDF. On est sorti avec Jean-Raymond dans les rues de Lille, rue piétonne à Lille. Il y a un gars qui s'approche comme ça. Il s'appelle Sébastien, 38 ans. Il en paraissait 50. Hein. Abîmé par la vie, ce gars. Et le gars s'avançait comme ça. Il avait une barbe, il s'était pas rasé depuis des années. Même Jean-Raymond m'a posé la question, s'il avait fallu le prendre dans les bras, est-ce que tu l'aurais fait ? Puis j'ai dit oui, mais j'aurais pris une douche après. Mais au fond de mon cœur, mes tripes ont été bouleversés. Je peux vous le dire, bouleversés. Ce n'était pas un SDF de Bondu. D'abord, il n'y en a pas à Bondu. Il y en a un petit peu. Ce n'était pas un SDF d'à côté de cette église. Mais il y avait un homme qui souffrait. J'ai eu mal au cœur pour lui. Je peux vous dire, ça a changé ma vision des choses. Et je me dis, il y a tant de personnes qui ont besoin du royaume. Tant de besoins qui sont matériels. Hein, parce que ce gars-là, il fallait le prendre, le laver d'abord. Parce qu'il sentait un peu. Il fallait le raser. Il fallait lui donner de la nourriture. Il fallait lui donner un logement. Il fallait. Je me sentais tellement démuni. Tellement démuni par rapport à la situation de cet homme. Et je vous partage ma souffrance aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise un truc ? Je souffre de voir l'Église, pas Betsalel, mais les chrétiens en général, ne penser qu'à eux et oublier ces gens-là. Je souffre de voir une Église qui ne pense qu'à elle, à exercer des ministères, à exercer des choses et qui oublie qu'il y a des gens qui sont en train de crever spirituellement, moralement. Soyons équilibrés. Il faut une Église qui se fortifie dans son centre, dans son sein, mais il faut une Église qui soit capable de sortir, capable de libérer. En réalité, nous cherchons à vivre des signes, des prodiges et des miracles, ok ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, hier, j'ai prié pour la guérison d'un eczéma. Tu te souviens de ce monsieur ? Il dit, est-ce que vous l'avez compris pour ça ? Il m'a dit oui. J'ai reçu une parole de connaissance. Il faut prier pour quelque chose. Je dis, est-ce que vous êtes malade ? Oui, j'avais 15 jours que je suis embêté avec un eczéma. On a prié, on a demandé la guérison. Je demande à ce que le miracle vienne dans sa vie. Mais souvent, on veut que les miracles restent ici. On veut que vivre des miracles ici. Et on ne comprend pas toujours. Mais vous savez, il y a des gens dehors. Si vous voulez voir des miracles, sortez d'abord. Si vous voulez voir des vies être transformées, partagez l'Évangile. Si vous voulez voir des gens être libérés, donnez-leur à manger. Il y a des gens ici, en France, dans notre région, mais à l'autre bout de la France, en Afrique, en Asie, il y a plein d'endroits qu'on peut aider. Faisons-le. Jette ton pain à la surface des eaux et en son temps, tu retrouveras ce que tu as acheté. Jette ton pain. Un jour, tu vas peut-être pas récupérer le pain, ça va peut-être être un poisson qui aura bien grossi, comprenez, qui aura remonté à la rivière. Peu importe, il faut jeter. Ne gardez pas ce que vous avez reçu. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez. Je ne parle pas uniquement d'argent. Votre salut, vous devez le partager. Tout ce que vous avez reçu, donnez-le. Ne gardez rien. Cet homme était riche, insensé. Et pauvre pour le royaume. Pauvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous partager cela. Parce que c'est une loi divine, une loi du royaume que je veux vivre. Que je veux vivre. Pour que le monde croie que Jésus est Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse.